منا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم والجهل وبصرنا بعيوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا الحكمة والعلم والدين. بعد أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, il y aura aujourd'hui, ça sera un cours de théologie, de croyance, du moment que l'année, la semaine dernière, c'était cours de fiqh. Alors, il faut que vous me rappeliez où est-ce qu'on s'est arrêté. Je pense qu'on a traité la question des Sahaba, notre question. Tabarok.
On a intervenu un tout petit peu dessus.
Sur
Tabarok. On avait fait Sahaba.
Oui, Sahaba. On a terminé la question de Sahaba. Oui. On a parlé des quatre écoles.
Début d'année.
On a parlé.
Hein. Début d'année.
Début de l'année, on a beaucoup détaillé cette question. Ouais. Hein. Karamat al-Awliya, on a parlé. Les prodiges, on a parlé. On n'a pas parlé du doua. Non, on va parler du doua, Inch'Allah. Alors, pour les francophones qui commettent toujours... c'est comme nous, arabophones. Je suis un arabophone. Hein. Quand je fais des dégâts, il faut pardonner. Pour nous, quand vous dites la dua, c'est comme si un arabophone vous dit « Ouvrez le porte, s'il vous plaît. » Donc, faut dire le dua et pas la dua. Tous ils disent la dua, c'est le dua. Et bien, la dua... C'est demander à Allah subhanahu wa ta'ala, sa définition, c'est une demande destinée à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, quand tu demandes une autre personne, si tu dis pas dua, tu dis donne-moi. Et, c'est-à-dire, des fois, on demande à une personne, s'il s'agit d'une personne, on demande à. C'est-à-dire, c'est une demande au même niveau, ou bien par respect, etc. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très important de comprendre qu'est-ce que c'est que dua, parce que des fois, quand les musulmans vont devant une tombe, pas demander le saint, mais demander Allah par la valeur de ce saint, on dit, vous êtes en train de demander le saint, vous lui faites dua. On ne lui fait pas dua, on demande à Allah par la valeur du saint. C'est-à-dire qu'on n'a pas... C'est la demande, le dua, c'est la demande d'Allah subhanahu wa ta'ala par le serviteur avec... avec humilité, pas concentration, non. Par, hein? Comment on dit?
Dévotion,
humilité, d'accord. Voilà, donc c'est la demande, hein, c'est l'humilité, dévotion, c'est-à-dire on se sent petit, vous voyez, c'est-à-dire, ya Allah, c'est-à-dire, tu es, quand tu demandes quelqu'un, tu ne fais pas comme ça. Bon. Mais quand on demande un azaouj, par crainte, dévotion, humilité, tout ça, d'accord? C'est ça le doigt. Alors tu ne demandes pas à Allah, je dis, bon Allah, je donne-moi, tu ne demandes pas à Allah, bon je veux, moi j'ai un problème, Allah, attendez, tu ne parles pas comme ça. C'est-à-dire, dua, c'est quand tu demandes à Allah quelque chose, on lui demande avec dévotion, avec humilité, en se sentant petit, en se sentant rien du tout, d'accord? C'est ça le dua. En arabe, bon, ça se résume en un mot, tadarra, donc ça veut tout dire. Alors le dua, il se fait, c'est-à-dire tu fais un dua pour toi ou tu fais un dua pour les autres. C'est-à-dire je veux faire un dua pour moi, ou je fais pour un musulman ou une communauté, ou hein, on dit Allahumma ghfirna, on fait un dua pour... Hein. Et comme tu fais aussi dua pour un mort, c'est-à-dire le dua, tu le fais pour le vivant, tu le fais pour Allahumma arhamhum, Allahumma ghfirna, d'accord. Vous voyez, quand le mort, on fait sa janaza, on dit ya Allah, pardonne-lui, ya Allah, etc. Donc on fait dua pour le vivant, et on fait dua pour le mort. D'accord. Alors, le dua, normalement, on est censé de faire un dua que par le bien. D'accord. Quand on fait dua, on fait pas dua sur quelqu'un par le mal. Mais il y a des exceptions quand même quand quelqu'un exagère dans le mal qu'il fait. C'est-à-dire, il fait tellement de mal. Vous voyez Kadhafi ce qu'il fait. Donc, il extermine son peuple. Il a, c'est-à-dire, c'est, déjà, l'argent, c'est l'argent du peuple, comme on dit. Hein, c'est le pétrole du peuple. Avec ce pétrole-là, il a acheté des armes. Contre qui? Contre son peuple. Donc, il extermine tout un peuple. Donc, c'est Ad-du'a, on est censé de faire un du'a du bien. Même un pourri, d'accord, on dit Allah yahdi, inshallah. D'accord, ça, quelqu'un qui est miskin, il est égaré, on fait toujours du'a. D'accord. Mais il y a des exceptions de cas où on assiste à des gens qui font tellement de mal que ça dire, ils font trop de mal, ces gens-là. Ils font trop de mal, donc on fait du'a sur eux. D'accord. Il s'est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait du'a, la bataille de Badr, sur quatre grands kuffars de Quraysh qui ont tellement fait de mal aux musulmans. Ils ont fait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Et tous ces gens, ils ont été tués dans la bataille de Badr, les quatre, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié dans son du'a. Donc le du'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est exorcé. D'accord. Il faut retenir cela. C'est-à-dire qu'il voulait exorcer. Le du'a, Allah azza wa jalla accepte le du'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه يا الله fais de telle sorte qu'il n'y aura aucune autre divinité à partir de ce moment-là jusqu'à la fin des temps dans ce lieu-là. Fais Mecca ou Medina. C'est-à-dire il n'y aura plus de statue, on n'adorera plus autre chose qu'Allah Azza wa Jalla. Donc qu'il y ait des gens aujourd'hui qui viennent, oh, vous êtes devant la tombe du prophète, vous adorez le prophète. Ben non, puisque le prophète a fait du'a, il a dit, Allah a fait de telle sorte qu'il n'y aura plus. Donc c'est comme si on contredit le du'a du prophète. Alors, donc le du'a, même si c'est vis-à-vis des gens qui sont, c'est-à-dire, c'est eux qui ont beaucoup plus besoin du du'a, quelqu'un qui n'est pas dans le droit chemin, quelqu'un qui est mauvais, quelqu'un qui est, c'est lui qui a besoin qu'on lui fait des du'a. Bien sûr, on essaie de le raisonner, on lui parle, etc. Machin, mais on fait aussi le du'a. Une maman qui a un fils ou bien une fille qui n'est pas dans le droit chemin, il ne faut pas qu'elle se précipite à parce que surtout le du'a sur la mère, sur son fils, c'est quand même c'est quelque chose, il faut faire attention. Il ne faut pas se précipiter de faire un mauvais du'a sur lui. D'accord. Donc, il faut lui faire du'a. Il y avait des awliya, il y en a des grands saints hein, qui étaient dans le mauvais chemin. Et c'est le du'a des mamans qui les a rendus dans le droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans plusieurs versets. Surat al-Mu'min. Surat al-Mu'min ou normalement. Verset numéro 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur vous dit de le demander, il acceptera, il exaucera votre du'a. Il a dit aussi dans la sourate de la vache, verset 186, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَلِيبٌ أُجِبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Quand mes serviteurs me demandent, je suis très proche d'eux, je réponds à leur demande, quand ils me demandent. Donc, je suis plus proche d'eux, je suis très proche. Il est proche, comment? C'est pas une... C'est pas... On est, hein, on est proche d'Allah Azza wa Jalla. Le professeur Rasul nous dit dans un hadith, le croyant est plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il est en sujoud. Quand il se prosterne. Hein? « Aqrab ma yakunu l'abdil arbi wa wasajid » Et pourtant, il n'a pas bougé de sa place. Hein? Il est debout, il est juste... d'accord. Donc, c'est pas, on ne se rapproche pas d'Allah Azza wa Jalla par mètre ou par kilomètre. C'est de la métaphore, c'est-à-dire que tu te rapproches d'Allah, parce que lieu, Allah Azza wa Jalla, il n'est pas situé ni dans un lieu, ni dans un temps, celui qui a créé le lieu et le temps. Donc on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il nous aime, c'est-à-dire plus tu es aimé par Allah Azza wa Jalla, tu es plus proche de lui. Sidna Ibrahim Khalil a dit dans un verset, inni dhahibun inda rabbi, inni dhahibun inda rabbi, qu'est-ce qu'il parle, hein? D'accord. Je vais vers mon Seigneur, il me guidera. Il est parti à Jérusalem, il est parti au Quds, mais Allah il n'est pas dans le Quds. Allah il est partout, hein. C'est pas par son essence, mais par sa science. D'accord. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, huwa fi kulli makanin bi'ilmihi. Il nous dit aussi dans la sourate de Naml, sourate de la fourmi, hein, sourate de la fourmi, verset 62. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَهُ وَيَكْشِفُ السُّوءُ. C'est lui qui répond à celui qui est dans la détresse. Alors il nous dit, il y a des versets extraordinaires où Allah Azza wa Jalla nous parle d'un cas de gens quand ils sont dans une galère, pas possible. C'est-à-dire, le cas cité, Fouqar al-Karim, extraordinaire. Et ça arrive aux gens qui sont dans l'avion des fois, Alors, tu es dans l'avion et l'avion, elle est quand même à 2 km ou un peu plus hein, par rapport au sol. Et on nous annonce que ça ne va pas du tout. C'est-à-dire, il y a un problème et les pilotes, le commandant, il nous dit voilà, c'est-à-dire, l'appareil ne répond plus. Ni l'électronique marche, ni tout est foutu et il n'y a rien du tout. Ah ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas envoyer d'autres avions pour l'amortir. Hein. Alors là, les gens. Elle fait trace, c'est la nature première qui sort, tout le monde se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, oulala. C'est-à-dire, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de parachute, hein. c'est pas des avions de guerre, donc c'est quand même un avion qui est là-bas, surtout s'il a commencé à piquer, donc qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, la fête la sorte. La même chose du cas de, cité par Al-Karim, où des gens ils sont en plein mer et qu'il y a une tempête. Et, c'est-à-dire une grande tempête, vraiment, comme le cas des tsunamis, et que y a pas de, on est en plein océan, il n'y a aucun contact avec le monde extérieur, c'est-à-dire la Terre, elle est très très loin, c'est la nuit, c'est la tempête, et le bateau commence à couler. Alors, quand elle nous dit, ils vont se diriger vers Allah, subhanahu wa ta'ala, pour les sauver. Il y en a ceux qu'Allah, azza wa jal, sauve, une fois qu'ils sont sauvés, ils reviennent à leur péché, c'est comme si rien ne s'est passé. Oui, Allah, si tu nous sauves, Allah, sauve-nous. C'est-à-dire, il va couler, tu es en plein océan, c'est la tempête, donc il n'y a rien du tout. Donc, la fête là, la nature première, la nature de l'homme, en reconnaissant l'existence d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah azza wa jal a créé dans chaque cœur, à un moment donné, quand l'homme il est dans une détresse, quand il n'a plus rien devant lui, il va se diriger vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Même si il prétend être athée quand il est dans la vie courante, bon, je suis pour philosophie, bon, moi je pense que je suis là-bas. Mais quand il est dans un. Ou bien quand il est aussi dans une maladie, d'un état critique, et qu'il est dans une phase finale, etc., et qu'il voit la mort s'approcher vers lui, aussi, on a assisté à beaucoup de cas où ces gens-là, ils ne disent pas la même chose de ce qu'ils disaient quand ils étaient en bonne santé, quand ils étaient. Dans le bonheur, dans la vie de tous les jours, etc. Donc, quand ils sont vraiment dans le fait d'accomplir, que Allah Azza wa Jalla leur montre leur faiblesse, nous montre notre faiblesse à nous, qu'on est en finalité, à la fin, on n'est rien du tout par rapport à la puissance d'Allah Azza wa Jalla, par rapport à la volonté d'Allah Azza wa Jalla, par rapport à la science d'Allah Azza wa Jalla. L'homme revient quand il est face au mur, quand il est devant le fait accomplir, c'est-à-dire il n'a pas, parce que allez, fais ce que tu as là maintenant, toi qui prétends être, tu as tout, hein, tu as la puissance, tu as le savoir, tu as la connaissance, tu as l'argent, etc., sauve-toi maintenant, tu es dans un état critique et tous les médecins sont unanimes qu'il ne te reste que quelques jours pour vivre. Qu'est-ce qu'il va faire ce personnage? Donc il va revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que c'est une question que seul Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant, il n'y a que lui qui peut le sauver. Et il a été vérifié plusieurs fois que ceux qui sont dans la sincérité, qui demandent à Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal exauce leur dua. Donc, comme dit Sahib al-Jawhara, وَعِنْدَنَا أَنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ كَمَا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَدُنْ يُسْمَعُ. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal accepte le dua. Et il nous incite dans plusieurs versets du Coran de lui faire dua, de lui demander. L'homme doit faire les choses qu'il doit. وَعِدُّ لَهُمْ. Le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, a dit au prophète, mais pourtant c'est un prophète. Pourtant c'est un sahaba. Il y a des sahaba. Et tous les prophètes qui ont précédé, c'est dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils pouvaient ne pas faire la guerre. Hein, quand ils sont attaqués, ils vont faire dua, et Allah, nous on ne fait pas la guerre, Allah, écrase-les. Mais non, Allah Azzawajal dit, il faut vous préparer, préparez-vous, prenez toutes les conditions, tout ce qu'il faut pour faire face à cette vie, pour faire face si on vous attaque, il faut aller vous battre, etc. Mais en même temps, faites le dua. C'est-à-dire que tu ne peux pas rester chez toi, ne rien faire et demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah, ben, je ne vais pas aller travailler, bon, ben, je vais prier toute la journée et je veux un peu d'argent parce que... Non. Là, tu ne peux pas. Parce que Allah a fait des causes, a fait des lois dans cet univers. Il nous a ordonné de faire les choses. Vous avez trouvé les grands saints, Awliya Allah Kibar, c'est des travailleurs. Les grands Awliya Allah, c'est des travailleurs. D'ailleurs, ils portent même le nom du métier où travaillent Zajjaj, Al-Haddad... donc il porte le nom de ce qu'il fait comme métier. Al-Najjar, Fulan al-Najjar, c'est-à-dire le menuisier. D'accord. Donc il est très important que le dua vient conclure un cercle après avoir accompli ce qu'il faut faire. Ensuite, on le termine par un doigt. D'accord ? On fait quelque chose et on termine par un doigt. Quand on n'a plus de chance, on n'a rien du tout, là, on fait aussi le doigt. Donc le doigt, il faudrait qu'il nous accompagne dans tous les actes de la vie. Ce n'est pas parce que seulement quand je suis dans le besoin que je fais doigt. Non, j'ai un projet, j'ai tout préparé, j'ai fait une étude de marché, j'ai consulté, etc. Je fais doigt. Doigt, c'est quoi ? C'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter ce que nous, après avoir réfléchi, après avoir consulté, après avoir pris toutes les dispositions qui sont à notre portée, et ensuite on ne sait pas, on se dit, bon ben moi j'ai fait tout ce que je peux, ensuite je demande à Allah Azzawajal de me faciliter cela, mon choix, hein, parce que je veux faire quelque chose, facilite-moi ou bien oriente-moi vers le bon choix. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas faciliter ton choix, c'est pas forcément par le rêve. Les gens, ils vont tout le temps faire le salat istikhara. Il attend le rêve, il rêve pas. Ben non, c'est pas par le rêve seulement salat istikhara. Salat istikhara. Il faut comprendre les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne quand tu fais salat istikhara. Ces signes-là peuvent être des choses matérielles, c'est-à-dire que tu vas te réveiller quand tu fais salat istikhara, tu vas trouver une facilité vers le projet que tu es en train de faire, ou bien tu vas trouver des obstacles. Ou Allah, ton cœur va, tu vas te réveiller le matin serré. Tu vas trouver quelque chose qui ça se bloque après avoir fait ça istikhara. Donc il ne faut plus insister puisque tu as fait ça istikhara. Allah Azza wa Jalla te donne des signes. Il faut comprendre les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il répond à nos doigts. Alors le doigt, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit plusieurs versets. Donc il est bénéfique. Il est bénéfique et profitable aux croyants. Mais bon. Doit rien faire, il ne doit rien faire. C'est-à-dire, il ne faut pas dire, pas la peine, ou bien. Non, il faut faire doigt. Il faut toujours faire doigt. Il faut faire doigt et demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, comment Allah subhanahu wa ta'ala répond à notre doigt, c'est une autre question. Parce que des fois, nous, on choisit quelque chose, des choses, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, mais en vérité, asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Peut-être que vous êtes en train d'aimer quelque chose, mais c'est un malheur qu'il y a dedans. Et peut-être que vous êtes en train de détester une chose et peut-être qu'il y a un bien dedans. Donc on ne sait pas en vérité le bien vraiment, c'est-à-dire dans sa vérité absolue. Où est le khayr ? Nous, on a notre vue extérieure des choses. Hein? On voit les choses dans leur espace extérieur. Mais dans le fond des choses, c'est-à-dire la portée des choses, seul Allah subhanahu wa ta'ala sait. C'est pour cela qu'il faut toujours demander à Allah azza wa jalla la facilité et le khair et le bien. À partir de là, il ne faut pas se, on va dire, il ne faut pas désespérer que Allah azza wa jalla n'a pas accepté, n'a pas répondu au doigt. Parce que tu ne sais pas comment Allah azza wa jalla a répondu à ton doigt. Peut-être qu'il l'a reporté, peut-être qu'Allah Azza wa Jal sait que de ce que tu fais, tu es en train de demander, il y a tout un mal dedans. Donc c'est Allah Azza wa Jal qui répond à nos doigts comme il le veut. Car c'est lui qui connaît vraiment le bien. L'essentiel, nous, c'est de notre tâche, c'est de faire doigt à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui nous répond à nos doigts comme il le veut dans notre intérêt. Alors, le doua, il lui faut des conditions et une éducation et un bon comportement. Alors, le doua, il lui faut des conditions, il lui faut une bonne éducation, il faut une façon de le faire. Il y a une façon de le faire. Alors, première chose, première condition du doua, si on veut que Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre doua, il faut manger, il faut... Manger, quand on dit manger, c'est consommer, en fait. C'est-à-dire manger, s'habiller, consommer le halal. Et le halal, ce n'est pas que la viande halal. Hein. Le halal, c'est tout le bien que tu consommes. Voilà, licite. Donc, tout le bien que je consomme, c'est-à-dire je porte des vêtements. Est-ce que ces vêtements-là, je les ai achetés avec de l'argent qui est vraiment de ma sueur, ou bien je les ai, ils m'ont plu, je les ai pris. Ou bien je travaille dans un lieu et je triche en travaillant dans ce lieu. Les musulmans ne trichent pas. D'accord ? Ils ne trichent pas. Ou bien je suis en train de vendre des choses, mais des choses un peu... Hein, je vends du lait, mais je mets beaucoup d'eau dedans. Je mets de l'eau. Hein. Donc, La triche, le musulman, il n'est pas, c'est pas un tricheur. Il doit être honnête. Que son patron soit présent, qu'il n'est pas là, donc lui, il n'a pas de compte à lui rendre. Le compte, c'est pour Allah Azza wa Jalla. Donc, il reste honnête, droit dans, dans son comportement. Donc, le halal, dans sa consommation, il est très important. C'est-à-dire, pour celui qui veut qu'Allah Azza wa Jalla accepte son dua, c'est très important que sa consommation, toute sa consommation, que ce soit du manger, surtout le manger, d'où il le ramène. Et il faut faire attention à ce qu'on mange, subhanallah. Des gens, ils disent, oh, dis bismillah, ils mangent. Ben non, tu ne dis pas bismillah, tu manges ça. Ils disent bismillah quand c'est du halal. Ah, bof, je suis bismillah. Non, il faut faire tout. Je sais que c'est difficile des fois de vérifier, hein, ce n'est pas évident, mais il faut quand même faire au moins un effort. Faire un effort de voir si c'est la chose que je mange, vraiment, c'est quelque chose qui est autorisé par la chéra, c'est du halal, c'est très important. Alors, deuxième chose, c'est demander à Allah subhanahu wa ta'ala et on a la certitude qu'il accepte notre dua. Donc on demande à Allah azza wa jalla et on a la certitude, c'est-à-dire on croit qu'Allah azza wa jalla accepte notre dua. C'est pas, il va demander, mais lui dans sa tête, oh, moi je suis en train de demander, je sais que de toute façon il ne va pas m'accepter le dua. Donc il est, à l'avance, il est négatif. Donc non, c'est un manque de respect à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il ne se précipite pas à dire « Moi, j'ai demandé, finalement, Allah Azza wa Jalla n'accepte pas mon dua, il ne m'a pas accepté mon dua. » Tu ne le sais pas. Tu ne sais pas. Donc, il ne faut pas se précipiter à dire « Ah non, patiente. » La patience, c'est l'arme la plus fatale du croyant. D'accord ? C'est une arme, c'est une puissance que Allah Azza wa Jalla a donnée aux croyants. Nous disent, tu n'atteindras jamais le stade de la vraie patience jusqu'à ce que tu l'aies. C'est-à-dire, savourer ou manger sabir. C'est une plante très très amère. C'est une métaphore. Ça. Jusqu'à ce que c'est-à-dire que tu vas endurer quand même. Sabir, c'est regarder les prophètes comment ils ont souffert dans leur vie. Ça, et pourtant, ce sont les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est parti à Taif, c'est une grande région du côté d'Arabie Saoudite, où il a commencé à appeler ces tribus-là à embrasser l'islam, à se convertir. Il leur amène que du bonheur. Il leur parle que des choses bien. D'accord, cessez d'être injuste, cessez d'être correct vis-à-vis de vos enfants, vous avez de vos femmes, vous avez de... Il ne leur parle que du khair, mais eux, ils ont envoyé leurs enfants, ils l'ont rejeté, ils l'ont frappé avec des pierres, au degré, ils l'ont cassé des dents, hein, en tirant des pierres sur lui, c'est-à-dire ses pieds saignés. Sidna Jibril, il est venu, il lui a dit, à Rasulallah, eux, ils habitaient, c'était des tribus, il y avait deux grandes montagnes, donc c'était des tribus qui habitent entre deux grandes montagnes. Sidna Jibril, c'est une créature très, 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 très forte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Elle est immense. Le prophète, il l'a vu dans son vrai état réel plusieurs fois. Sinon, lui, il vient, quand il vient voir le prophète, et qu'il est un sahaba, plusieurs fois, il vient voir, il porte la forme d'un sahabi, il s'appelle Dihya. Il porte la forme de ce sahabi-là. Mais le prophète, il l'a vu dans sa vraie forme. Qu'Allah Azza wa Jalla l'a créé, il a décrit, il a dit, quand il étale ses ailes, il a dit, il englobe toute la terre. Donc, il peut la mettre sous ses ailes. Allamahu shadid ul quwa. Allah Azza wa Jalla, il dit du Seigneur Jibril shadid, c'est-à-dire fort. Il parle de lui. Alors, il a dit à Rasulullah, si tu veux, en une fraction de seconde, vite fait, je frapperai les deux montagnes, ça y est, on n'entend plus parler de ces gens-là. Ils vont devenir des poussières en fraction de seconde. Quelle était sa réponse? Il a dit non, laisse-les. Il a fait du'a, il a dit, ya Allah, guide-les, ya Allah, fais de ta sorte ces gens-là. Regardez, alhamdulillah, vous avez Taif maintenant, il y a des mosquées, il y a des musulmans, il y a des... Alhamdulillah, c'est-à-dire de leur descendance, le prophète a dit, même si ces gens-là ne veulent pas croire à moi, mais inshallah, Allah Azza wa Jalla fera qu'il y ait des bons croyants. Et c'est alhamdulillah ce qui se passe actuellement, Taif, il y a des mosquées, il y a des musulmans, etc. Et que quand il fait le dua, il ne faut pas que son cœur soit loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il fait le dua, il lui regarde un match de foot. Il regarde un film. Ou bien il fait le dua, il est dans le péché. Ben non, pas, tu pas. Il n'y a pas de sincérité. Quand on fait du'a à Allah Azza wa Jal, il faut qu'on est avec Allah. On n'est pas ailleurs, on n'est pas concentré sur autre chose que de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. On fait du'a, on est avec Allah subhanahu wa ta'ala. On pense à Allah Azza wa Jal. On est dans l'humilité, on est dans la dévotion. On se concentre sur ce qu'on est en train de demander, c'est la crainte, c'est notre cœur qui doit être concentré sur la demande dont on fait et sur Allah Azza wa Jal. Et qu'il ne fait pas du'a, c'est-à-dire de haram. C'est-à-dire, le du'a, il est toujours dans le halal. Il ne dit pas, ya Allah, moi, je voudrais attaquer une banque, mais deux fois ça ne marche pas, je voudrais que la troisième. Donc, le du'a, il faut qu'il soit dans le halal. Ou bien il fait un du'a pour que, c'est-à-dire les relations familiales, c'est-à-dire il ne s'entend pas avec son oncle, il ne s'entend pas, la tante ne s'entend pas, la fille avec sa maman, ou le garçon avec son père, ou vice-versa, avec la fille avec son père, ou bien l'enfant avec sa mère. Il ne va pas faire du'a pour dire, ya Allah, éloigne-moi de cette famille, ya Allah, coupe-moi de ya Allah. Non, il faudrait que le du'a soit au contraire. Et Allah fait de telle sorte de changer ma maman. Si lui voit qu'il est dans le droit chemin, etc., ya Allah, adoucit son cœur, ya Allah, fait-la revenir ou fait-le revenir dans le droit chemin, etc. Et que c'est-à-dire dans l'adab de du'a, on demande ce qui est demandable. Il ne va pas dire, c'est-à-dire il faut demander ce qui est de l'ordre, de la demande de ce que Allah a créé comme loi dans la nature. Il ne va pas passer par une montagne. Il va dire, ya Allah, je te demande de me transformer cette montagne en or. Donc, non, si tu demandes, Allah Azza wa Jal t'a dit, va travailler, toi tu lui dis, non. Demande à Allah Azza wa Jal qu'il te donne, c'est-à-dire la santé pour aller travailler, pour avoir de l'argent. Me font. C'est-à-dire, on ne demande pas des choses impossibles. D'accord. Sauf si on est dans, quand même, comme j'ai dit tout à l'heure, on est dans un état où on n'a plus, c'est-à-dire, on est dans une maladie, ya Allah, je suis dans plein temps plein, mère, il n'y a que Allah Azza qui me sauve. Là, bien sûr, c'est des choses que je dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, parmi les choses dont nous devons respecter dans le du'a, c'est qu'il y a des moments où Allah Azza wa Jalla nous a recommandé de faire du'a. Donc il faut connaître ces moments-là de faire du'a. Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Aqrab ma yakunu l'abdu indarbi wa wasajid ». C'est-à-dire, on est beaucoup plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala quand on est en plein sujoud, en prosternation. Il y a quand on se prosterne. Donc, quand on se prosterne, quand on a la tête sur le sol, profitez de faire du'a. Profitez. C'est-à-dire, on est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut faire le du'a. Oui. Aussi, après le adhan, quand il termine, on fait le du'a. Il est très recommandé de faire le du'a après le adhan, d'accord? Ou bien après l'iqama aussi, quand on fait iqama de salat, juste avant que la prière commence, parce que normalement, point de fiqh, comment se fait iqama de salat dans les mosquées, hein. Celui qui fait iqam salat, mais ça c'est dans le fiqh, malheureusement on ne le voit plus dans les mosquées. Hein. On ne fait pas iqam salat, vous avez des gens, ils sont assis, ils ne se lavent jusqu'à ce qu'ils entendent le mot adven ou la chérif qui salat, donc ils se lèvent. Non. Dès qu'on voit l'imam venir faire la prière, les sahabas, comme ça, dès qu'ils voient le professeur sortir, il vient, ils se mettent debout. Ils s'alignent, ils commencent à s'aligner, ils commencent à bien se mettre. Quand ils sont tous debout, ils sont bien salés, etc., hop, il lui dit, fais iqam salat. Une fois qu'ils sont debout, ils sont alignés, tous khlas. Maintenant, fais iqam salat. Il fait iqam salat, ensuite. Donc, une fois qu'on fait iqam salat, il est recommandé aussi de faire un du'a. Il est recommandé aussi qu'on fait le du'a ayant les grandes et les petites ablutions. D'accord. En étant en grandes et petites ablutions, on fait un du'a. Et il est recommandé aussi de faire le du'a pendant une prière obligatoire, ou aussi on fait deux rak'at dans l'intention de faire le du'a dans ces deux rak'at-là. D'accord. C'est-à-dire, je veux demander à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose. Donc, je fais mes ablutions, etc. Je fais mes deux rak'at, et pendant mes prières, quand je prostère, pas pendant le recours. Le recours, non, l'inclinaison. On ne fait pas de dua. On dit subhanallah rabbil azim, d'accord, bihamdih. Mais pendant le sujoud, on fait le dua, d'accord. Il est recommandé aussi de faire le dua en étant dans la direction de la qibla, d'accord. Tu te mets en direction de la qibla, ça c'est recommandé aussi. Et qu'il est très fortement recommandé de lever les mains pendant le dua. Il faut lever les mains. Les gens, subhanallah, aujourd'hui, ils ne lèvent pas les mains. Ajib. Quel bid'ah. Imam Suyuti, il a rapporté plus de 100 hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains. Tu lèves les mains, en groupe ou seul. Surtout en groupe, c'est très bénéfique parce que s'il y a un qui est pieux dans le groupe, Allah azzawajal exauce le dua de tout le groupe. Oui.
Juste au niveau des épaules, c'est pas bon.
Hein?
Moi, j'avais vu dans un livre qu'il fallait le faire au niveau des épaules.
Non,
la hauteur des épaules.
Non, pas forcément. C'est-à-dire, on le fait comme ça, on le fait comme ça, on le fait comme ça. Ouais. L'essentiel, c'est comment le cœur il est branché. Dans le, où on situe l'humain, il n'y a pas de problème. On fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Malich. D'accord. L'essentiel, c'est. Mais l'adab, c'est du bon comportement de lever les mains. Non. Et qu'il est très, très recommandé. Avant qu'on fasse le doua, de se repentir. De se repentir, c'est-à-dire de se revoir, c'est-à-dire de revoir qu'est-ce qu'on a fait comme péché, comment est notre état vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que je suis dans le. Je ne suis pas fautif, est-ce que je ne suis pas. C'est-à-dire, je ne fais pas vraiment ce que Allah m'a demandé de faire, m'a ordonné de faire. Je ne fais pas mes prières à l'heure. Je néglige, je suis négligent vis-à-vis de ma religion. Voilà mon conseil. Est-ce que si je suis négligent, il faut que je me repentis. Il faut se repentir. Il faut, c'est-à-dire refaire son bilan. Les gens, ils passent leur temps à refaire les bilans des comptes. Hein. Ils voient les comptes de l'argent tout le temps. Il y a des gens, 3-4 fois, attention, même des tickets, attends, ça c'est 6 centimes, on lève, machin, tout là. Mais il ne fait pas de bilan du compte des hasanats et des péchés. Il faut revoir toujours comment on est vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et revoir, c'est-à-dire notre hal, notre état vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il reconnaît ses péchés et qu'il se repentit avec sincérité. Les conditions du repentir, je ne sais pas si on en a déjà parlé, les conditions du vrai repentir, c'est déjà d'arrêter le péché s'il fait du péché. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il continue. Quelqu'un qui veut se repentir, il faut qu'il arrête sur place. Il dit, astaghfirullah, il ne faut pas qu'il continue. Ça, c'est premièrement. Et qu'il met dans son intention qu'il ne revient plus vers son péché. Il faut regretter surtout. Hein. Quand on dit, c'est n'abdou'a pas Allah, secondary, rahmatullah ta'ala. Ibn Atta'ila Sakandari, il faut liser ces sagesses, elles sont traduites en français. C'est des sagesses extraordinaires. Retenez son nom, il s'appelle Ibn Atta'ila Sakandari. Ibn Atta'ila Sakandari, il a des sagesses, une centaine de sagesses traduites. Éric Geoffroy, il a traduit ces sagesses-là, je pense qu'il les a même commentées. C'est un musulman converti. Il dit dans l'une de ses sagesses, il dit, ces sagesses-là, c'est une sorte de théorie hein, d'un grand cheikh soufi du comportement qu'on doit avoir dans la religion attaché à notre spiritualité dans la vie de tous les jours. Donc c'est la spiritualité et notre comportement, comment il doit se manifester dans la vie de tous les jours. Donc c'est des sagesses extraordinaires. Il dit dans une de ses sagesses, que tu commets un péché et qui te donne dans ton cœur un grand regret et que tu sens que tu as fait quelque chose de pas bien et que tu as vraiment regretté, que tu te sens petit, que tu te sens humilié, que tu te sens vraiment pas bien du tout, est mieux pour toi qu'une bonne action qui te donne de la fierté, qui te sent, que tu te sens que tu es quelque chose. Un péché peut être mieux, et il a une valeur, qu'une bonne action. Parce que la bonne action, elle n'est pas dans la sincérité. et que le péché, il l'est avec son repentir dans sa sincérité. Vous imaginez ? C'est la vente, monsieur le Hajj. Alors, moi, attention, moi j'ai fait des Hajj, attention. Donc, tu as fait le Hajj après. Donc, et finalement, il est très recommandé quand on fait le dua, on commence par Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Rasulullah. Il faut dire Sayyidina Rasulullah. Les gens ils disent salut salam ala Muhammad, ton âme, c'est ton ami, subhanallah. Sayyiduna, c'est-à-dire Sayyid, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non, c'est un Sayyid. Comment interprète-t-on en français Sayyid?
Maître,
voilà, plus proche, mais bon, c'est pas 100% ça, mais bon, c'est proche, d'accord. Maître. Il le dit, c'est dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, « Ana Sayyidu waladi Adam wa la fakhr. » Je suis le maître des enfants d'Adam, sans la vanter. Voilà, il parle de Sayyidina al-Hassan al-Hussein, il dit Ibnaya hadha Sayyida Shababi Ahli Jannah. C'est des maîtres des jeunes, des Shabab, des gens du paradis. D'accord. Il parle ça, Sayyidi Rasulullah. Aïe, où est le problème? Subhanallah. Alors, on commence par Alhamdulillah, salatu salam ala Sayyidina Rasulullah. Et au milieu du dua, il est recommandé aussi de le dire Alhamdulillah, salatu salam ala Sayyidina Rasulullah. Et à la fin du dua aussi, il est recommandé de le dire. D'accord. Donc on commence par Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Rasulullah. Et au milieu de le dua, il est recommandé de le dire. Et on termine, on conclut le dua aussi par Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Rasulullah. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَمَلَّ مِنْ طَلَبْ, comme disent les shuyukh. C'est-à-dire, ne cesse de demander à Allah. Il faut toujours demander à Allah. D'accord. Faire le dua. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la question du dua. Alors, passons à un point. Bien sûr qu'on a traité la question des anges, mais je vais parler d'une catégorie d'anges dont on a cité vite fait. C'est alors, on a Al-Hafada. On a Al-Hafada, c'est le protège, hein? Protecteur, ça se dit, hein? Protecteur. Allez, on va dire les protecteurs. Dans des anges que Allah Azza wa Jal a donné une tâche. Leur tâche, c'est de protéger. Madame. On n'est plus dans le dua. Ça y est, on a terminé. Donc là, on va parler de questions des anges qui. Question des anges, on en a parlé. Mais une catégorie d'anges, deux catégories, parce que le programme, il est comme ça. D'anges, c'est ce qu'on appelle Al-Hafava, ceux qui protègent le croyant. Donc Allah Azza wa Jal a créé, vous savez qu'Allah Azza wa Jal a créé des millions et des millions d'anges. Des millions et des millions. Et ces anges, comme on l'a dit, ne mange pas, ne boit pas, ne dort pas. Ils ont des tâches. Chacun, Allah Azza wa Jalla, leur a donné des tâches. D'accord. Il y en a ceux qui font que du recours, il y en a ceux qui font que du sujoud, il y en a ceux qui font. Ils disent toute leur vie, la hawla wa la quwwata billah. Il y en a ceux qui disent Subhanallah, la ilaha illallah. Il n'y a pas un pas dans les cieux, sur terre, il n'y a pas des anges. D'accord. Donc tout ça, on l'a détaillé dans le cours des anges. Mais là, la question des hafada, donc on a un verset dans Sourate Ar-Ra'd. Tonnerre, sourate de la tonnerre, du tonnerre. Décidément, hein? Je suis comme la doua. Sourate du tonnerre, donc verset 11. D'accord, verset 11. Alors, Allah Azza wa Jalla dit lahum mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Donc, il nous parle des anges qui protègent le croyant. Et que les savants disent que plus on est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus le nombre d'anges, il y aura plus d'anges qui viennent nous protéger. Alors, ils nous protègent de beaucoup de choses. Ils nous protègent du mal qui peut nous toucher dans cette vie d'ici-bas. C'est-à-dire, vous avez un ennemi, vous êtes en train de marcher, il y a quelque chose qui va arriver, vous êtes en train de... de vous diriger vers un mal, etc. Les anges, ils sont là. Allah Azza wa Jal leur a donné cette tâche de protéger les croyants et les bien-aimés d'Allah Azza wa Jal. Alors, leur nombre peut aller jusqu'à de 10 jusqu'à 400. Alors, vous imaginez, donc c'est pour cela. Et les anges, on a parlé que parmi leurs caractéristiques, ils ne peuvent pas, ils détestent les mauvaises odeurs. Quand quelqu'un commet un péché, les chouyours nous disent, quand quelqu'un commet un péché, il y a une mauvaise odeur qui sort de lui. Ils ne la sentent pas, mais les anges, ils la sentent. D'accord ? Il y a une mauvaise odeur. Donc, ils ne peuvent pas rester avec quelqu'un, un pécheur. Enfin, quand ils seront repentis, ils viennent. Donc, les anges sont avec ceux qui se repentissent, sont avec qui sont dans le droit chemin, sont avec ceux qui font le wudu, sont avec ceux qui font la prière, le dhikr. Donc, plus tu es dans le droit chemin, plus tu es vers Allah Azza wa Jal, plus tu as d'anges qui t'entourent et qui sont là pour te protéger de beaucoup de choses. On les appelle Al-Hafada, ou Al-Hafidun.
On peut aussi, en français, les anges gardiens, on les appelle.
Gardiens ? J'ai un peu peur de...
C'est écrit dans le livre.
Oui. Aïkitab. Ouais, j'ai un peu peur des détails. Les anges gardiens, peut-être parce qu'en français, les anges gardiens, ils parlent des anges qui sont les deux qui sont avec nous tous les jours, hein, en français. Hein? Non, je veux dire, je respecte, mais dans la vie courante de tous les jours, c'est en français, quand on dit les anges gardiens, on parle des anges qui sont avec nous. Ensuite, un ange gardien, c'est-à-dire, ça fait un peu le truc là sur la tête et qu'il est là, c'est-à-dire qu'il peut bien protéger. C'est pour ça que je fais très attention à ce qui est dans la vie courante traduit. J'ai rien contre la traduction, elle est bonne, mais il faut faire attention à ce qui est dans, pour ne pas faire circuler une mauvaise définition avec l'ange gardien, avec les tachavraha, avec les khsira, avec les chansons. Allez, Léna. Taïb. Donc on a le nombre d'anges, c'est-à-dire... oui, parce qu'il y a des gens, ils sont à côté de la plaque, ils te disent, moi, c'est mon ange gardien. Ils ont cette conception, mais ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire... Kaif ?
Sens figuré.
Non. Sinon, le sens, c'est ça. C'est-à-dire, il protège le croyant. On dit même qu'ils sont là pour protéger le croyant, surtout quand il dort. Il dort, il y a quelque chose qui vient le piquer, qui va l'attaquer, etc. D'accord ? Al-Hafada. Donc c'est Allah Azza wa Jal qui les responsabilise. Hein. Ils ne font pas quelque chose que l'homme, lui, c'est-à-dire sans l'ordre d'Allah Azza wa Jal, ils font que ce qu'Allah Azza wa Jal leur a ordonné de faire.
10 à 400, c'est sorte, ou alors chacun.
C'est-à-dire on peut avoir 10, on peut avoir 20, on peut avoir 30, jusqu'à 400. Imam Ibn Atayya, c'est un grand... savants musulmans, ils disent, ça peut être jusqu'à 400, c'est même l'arabe qui le dit. Ensuite, maintenant, revenons aux anges qui, comment les avaient traduits, les scribes, c'est ça, hein, les scribes, ceux qui écrivent nos bonnes actions et nos péchés, ils sont là. Alors, tous les deux, ils portent le même nom. Raqib Atid.
Raqib Atid.
C'est-à-dire, tous les deux, ils s'appellent comme ça. C'est-à-dire, il y a deux anges, ils ont le même nom. Raqib Atid. Il y en a ceux qui font l'erreur, ils croient qu'un s'appelle Raqib et l'autre s'appelle Atid. Non. Tous les deux, ils s'appellent Raqib Atid. Alors, Raqib Atid. Atid. Voilà. Atid. Tu peux diminuer un peu, sinon on va te rincer avec.
Il y en a d'autres.
Non, tu peux diminuer le livre serré. Voilà. Alors, Raqib, tu peux écrire à côté le sens de Raqib veut dire Hafid, c'est-à-dire il est Hafid. Voilà, pas ça, non. Hafid, c'est-à-dire il est. Comment il a traduit ? Tu as une idée ? Raqib ?
Là, je
ne
le trouve pas.
Hafiz, c'est celui qui protège, on va dire. Hein. Pas protecteur, mais protège. Yahfaz, il protège. Hein. C'est une différence. Celui qui protège. Non ? Pas clair.
Il sécurise.
Sécurise Hafiz. Non, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour... il est le garant, on va dire. Garant. Voilà. Non, non, il garantit. Il garantit la chose. Hein, on va dire garant, protecteur. Tu mets garant, protecteur dans ce sens. Garant, protecteur. Par contre, atid, donc garant, protecteur, atid veut dire celui qui est présent. Hadir. D'accord. Celui qui est présent. Donc atid, celui qui est présent. Voilà.
Cheikh, vous avez dit que les deux anges portent leur nom, c'est
tout à fait. Raqib. Exact. D'accord. Exact.
Ils ont, exact. Dans leur nom, ils ont
tous les deux, ils s'appellent Raqib Atid. Donc on a deux anges, Raqib Atid, Raqib Atid. Ils d'accord. portent le même nom, d'accord. Donc tous les deux, ils portent deux noms, on va dire, d'accord. Tous les deux, ils ont le même nom. Donc Raqib Atid. Et Allah, non.
Les anges à moi, les anges à lui, à elle.
Non.
Ils portent
le même nom. Le même nom.
C'est
non. Oui.
C'est plus une dénomination, c'est pas un nom.
Tout à fait. C'est exactement. C'est une. C'est un. On va dire c'est un genre. D'accord. C'est une catégorie. D'accord. C'est une catégorie. Allez voir. Et donc. Et dans le verset 18 de Sourate Qaf, on a le verset 18 de Sourate Qaf. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Chaque parole que l'homme prononce est Raqib Atid sont là pour la noter. D'accord ? Raqib Atid, c'est-à-dire, ils sont là pour noter. بكل عبد حافظون وكلوا وكاتبون خيرة لن يهملوا من أمره شيء فعلوا لو ذهل حتى الأنين في المرض كما نقل. Même quand quelqu'un est malade, il dit comment dit ? Gémir.
Gémir.
Ouais. Quand quelqu'un est en train de gémir, on dit gémir. Hein. Mm. Il est noté. C'est-à-dire, il dit ah, les autres, ils notent. Ça, ils notent tout. Hein, c'est-à-dire, ils notent tout. Alors, donc, ils écrivent tout. Même quand il gémit, il est noté. C'est écrit. Alors, non.
Les deux anges, ils écrivent la même chose
ou J'y arrive. Pardon. J'y arrive. Alors, cette question de d'écrire tout, on va revenir, hein, que l'un il écrit les bonnes actions, l'autre il écrit les mauvaises actions. Celui qui est sur la droite, il écrit les bonnes actions, celui qui est sur la gauche, il écrit les mauvaises actions. Donc on a deux anges, un se met à notre droite, l'autre il se met à notre gauche. Celui qui est à droite, c'est lui qui est responsable de celui qui est à gauche, c'est son ami. Amir, d'accord. Il est Amir, hein? Amirou. Tahoula. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, "Idha kharaja thalatha falyu'ammiru ahadahum." Donc trois, quand ils sortent, trois musulmans, ils doivent désigner quand même un Amir, c'est-à-dire que c'est pas qu'il est dictateur sur eux, mais quand il consulte, c'est lui qui prend la décision, il est le plus sage, le plus savant, etc. Donc celui qui est à droite, c'est lui Amir par rapport à celui qui est à gauche, c'est lui, la décision finale revient toujours à lui. Alors c'est celui qui écrit, alhamdoulilah, par la clémence d'Allah Azzawajal, c'est lui qui écrit les bonnes actions. Celui qui est à gauche, il écrit les mauvaises actions. Alors quand le croyant commet un péché, celui qui est à droite, il dit à celui qui est à gauche, il lui dit, n'écris pas, ne te précipite pas à écrire le péché, la mauvaise action, patiente un petit peu, peut-être qu'il va se repentir. Et que le professeur nous dit dans le hadith, et quand tu fais un péché, reviens vers Allah Azza wa Jal, repentis-toi et fais des bonnes actions, elles effaceront, c'est-à-dire les bonnes actions, elles vont effacer le péché. Mais faut, Inch'Allah, c'est-à-dire, elle efface. Donc il lui dit, ne te précipite pas à écrire c'est-à-dire le péché, patiente un petit peu, peut-être qu'il va se repentir, ils vont patienter jusqu'à la fin de la journée. Il lui dit, peut-être qu'il va se repentir, attends, n'écris pas. S'il se repentit comme ça, alhamdoulilah, ça l'a effacé. On écrit la bonne action, la mauvaise, on ne l'écrit pas puisqu'elle est effacée. Et si en fin de journée, il ne s'est pas repenti, il lui dit, Aktubha, arahanallahu minhu. Alors il lui dit, écris ce péché-là, qu'Allah nous. C'est-à-dire, arahanallahu minhu, c'est une façon de dire, qu'Allah nous. C'est-à-dire, comment on peut dire. C'est un proverbe, de toute façon. Arahanallahu minhu, qu'Allah nous. C'est pas que nous débarrasse de lui, mais. qu'Allah s'occupe de lui, ou bien, d'accord, dans ce sens. Alors, vous remarquez une chose, que les anges, ils écrivent quoi? Ils écrivent ce que eux voient comme bonne et mauvaise action. Ce que le croyant, le musulman, ou bien le non-musulman, fait d'actes qu'on voit. Ils écrivent ce que nous, on dit. Mais est-ce qu'ils écrivent ce qu'il y a dans les cœurs? Ah, c'est très important. Donc, seul Allah subhanahu wa ta'ala, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs. Sahih ou la? Et لذلك, Sayyidina Ali, quand il était en plein ils étaient en plein bataille. Donc, il y avait un kafir. Il a frappé l'épée du mécréant. Il n'a plus d'épée. Il a tué. Le mécréant, il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Le sahabi, il l'a tué. Sina Rasulullah, il a dit, pourquoi tu l'as tué? Il a dit, Rasulullah, il l'a dit parce qu'il avait peur. Depuis tout à l'heure, j'étais en guerre avec lui. Maintenant qu'il n'a plus d'épée, il dit, la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Awa shaqaqta ala qalbi. Pourquoi tu as ouvert son cœur pour voir s'il l'a dit par peur? Il a dit, est-ce que tu as ouvert son cœur? Les gens aujourd'hui, ils ont l'audace, hein, ils disent qu'il y a dans les cœurs. Bon, je ne parle pas des fous, là, des mécréants, de les charlatans, tout ça. Non, je parle des combats des gens. On dit, ah, celui-là, son intention. Non, on ne peut pas lire les intentions des gens. Nous, on n'a que. C'est-à-dire, les actes extérieurs. Et les actes extérieurs, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit il faut avoir toujours la bonne intention des gens. De toute façon, tu ne perds rien du tout. Si tu as une bonne intention et tu vois les choses positivement et que l'autre, il avait une mauvaise intention, tu ne perds rien du tout. Par contre, tu perds grand-chose si lui, il a une bonne niya, il a une bonne intention et que tu as porté sur lui quelque chose qui est mauvais. C'est-à-dire, on lui a collé quelque chose et qu'on a dit à celui-là, ceci, cela, finalement. Ou surtout les jugements. C'est-à-dire que il ne faut jamais juger les gens. Il ne faut jamais, jamais, jamais. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. C'est-à-dire, il faut toujours se juger soi-même. Ah voilà, avant de juger les autres, avant de porter jugement sur l'autre. Ah oui, je l'ai vu avec une. Ouais. Donc, qu'est-ce que t'en sais, toi? Qu'est-ce que t'en sais? De quoi tu fouilles? Quoi tu te mêles? C'est-à-dire, on a tellement de choses mauvaises en nous, c'est-à-dire qu'ils sont interminables, on doit s'occuper de cela. C'est-à-dire, un chameau, apparemment, on dit qu'un chameau, il a deux bosses, il a vu un autre chameau passer, « Oh tiens, il y a un chameau qui a une bosse, mais toi, tu as deux bosses à sa vie. » Donc, c'est-à-dire, l'être humain ne voit pas ses péchés. C'est pour ça qu'il faut des chouyours, c'est-à-dire les chouyours qui vont... Quand tu es devant un cheikh spécialiste, hein, un vrai cheikh de tasawuf, de spiritualité, il va te sortir tes maladies, tu seras étonné. C'est-à-dire, c'est comme si tu vas à un médecin, tu dis, bon, moi je pense que machin. Tu vas faire des analyses, il va te sortir des choses, tu dis, la hawla wa quwwata. Quand il est mort, un sens sportif, machin, ah, je suis désolé, tu as une tumeur grave de machin. Oh, moi je sens. Donc, le cheikh, de la même façon, on a des maladies, nous on ne les voit pas. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas, peut-être elles sont dans ton intérieur, peut-être elles se dégagent des fois dans nos comportements, on ne les voit pas, c'est pour cela. Il faut toujours se préserver de juger les autres et de ne pas porter jugement, que ce soit même si tu vois quelqu'un qui fait un mauvais péché, soit quelqu'un qui le conseille. Ce n'est pas quelqu'un qui va le divulguer. C'est-à-dire qu'il va dire, voilà, ah, c'est-à-dire, on a notre cheikh, Cheikh Mouloud Hafidhahoullah, nous donne un exemple extraordinaire. Il nous dit, si vous êtes dans la rue et vous allez rencontrer en face de vous un ami que vous connaissez, il est nu, pour une raison ou une autre. Qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que vous allez appeler tous les gens pour le voir? Regardez, venez, il est nu. Ou bien tu vas chercher, c'est-à-dire tu vas te précipiter à essayer de le couvrir avec ce que tu as entre tes mains. C'est l'acte qu'il faut faire. Man satara muslimin fi dunya, satarahu Allah yawm al-qiyamah. Celui qui c'est-à-dire yastor, satara muslimin, hein, il protège. C'est pas parce qu'on va le protéger, t'inquiète pas, hein, tu fais ce péché-là, moi je suis tout court. Non, c'est pas ça. C'est qu'on le conseille. Il faut pas le divulguer devant les gens, etc. ومن فرج على مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. Et celui qui vient au secours d'un croyant dans un obstacle, dans une dureté, dans un malheur, dans cette vie d'ici-bas, Allah Azza wa Jal viendra à son secours le jugement dernier, comme il est venu au secours d'un musulman ou d'un autre d'ailleurs. Donc le musulman, il faudrait qu'il fasse très attention. Déjà les anges, Allah Azza wa Jal ne leur a pas donné accès à ce qu'il y a dans les cœurs. Donc les actes, eux, qu'est-ce qu'ils écrivent? Ils écrivent ce qu'eux, ils constatent. Parce que le jugement dernier, le prophète sallam nous dit qu'il va y avoir des gens qui vont venir avec beaucoup d'actions. C'est-à-dire avec du hajj, salat, siyam, machin, il a fait ça d'armée. Mais à la fin, ils n'étaient pas destinés à Allah Azza wa Jal. Ils n'étaient pas sincères dans ces actes. Quand il va prier devant les gens, c'est... Attention, c'est Sheikh al-Islam. C'est-à-dire qu'on va dire celui-là, la ilaha illallah. Mais quand il va prier tout seul chez lui, tac, 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 salam alaykoum, alaykoum. Donc c'est-à-dire, et on a prié derrière des gens comme ça, c'est-à-dire ils nous ont tellement fatigués, on avait des vieux qui ont prié avec nous dans le recours. Il y avait un, il nous a, la hawla qu'atel billah, il est resté dans le recours, tenez-vous bien, une vingtaine de minutes. On était comme ça, dans le recours, la hawla qu'atel billah. Subhanallah, il y avait des vieux avec nous, ça qu'ils allaient tomber. Je dis qu'à quoi. Et subhanallah, qu'Allah pardonne à quelques frères, tellement ils étaient énervés, ils sont allés, on va le voir quand il va prier tout seul, comment il va prier. Mais un frère, il m'a dit, viens, regarde comment il prie tout seul. Et c'est-à-dire, bah, tac, 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 ah, sahbi. Quand tu pries tout seul, tac, 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 tu pries avec les gens pour montrer le khushu', c'est pas ça. Mais du fiqh, c'est-à-dire le fiqh, c'est quand quelqu'un prie en tant qu'imam avec un groupe, il faut qu'il fasse vite, tout en rapportant les obligations. C'est pas... Non, tu ramènes le... C'est-à-dire, tu respectes ce qu'on a vu comme obligation, c'est-à-dire l'acte, il faut faire le sujoud, se lever, mais pas trop prendre de temps. Quand tu es seul, tu fais un record d'une heure. Abu Hanifa, il rapportait tout le Coran dans le rak'at. C'était un hizb. Tout le Coran dans le rak'at. Imam Abu Hanifa. La nuit, deux rak'at. Première rak'at, 30 hizb. Deuxième rak'at, 30 hizb. C'est des gens qui ont atteint ce degré de savoir par la piété, par la crainte d'Allah Azza wa Jal. C'était des gens qui passent leur nuit à prier, à craindre, à faire tisbih, dhikr, istighfar. Et ça leur facilite. Donc le cœur, même les anges, ils ne savent pas. Ils écrivent, eux. Et le jugement dernier, ils viendront, ils ne savent pas. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il est dit, les anges viendront le jugement dernier, et ils apporteront les sohuf, c'est-à-dire les feuilles, hein, les feuillets, c'est-à-dire plein de... il a fait que des mauvaises actions, que des péchés dans sa vie, que des mauvaises actions, que des péchés. Il tourne les pages, il n'y a que cela, c'est-à-dire c'est un massacre, quoi. Allah Azza wa Jal leur dit, regardez, c'est là une bonne action. Ya Allah, il n'a pas de bonne action. Rien du tout. Regardez très bien, il n'a aucune bonne action. C'est-à-dire, on va y arriver quand on va parler du jugement dernier, Inch'Allah. Le mizan, le jour de la balance, où les mauvaises actions d'une part et les bonnes actions d'une part. Hein, et la monnaie ce jour-là serait les hasanat. Hein, ceux qui ont fait un peu d'économie, les DTS, c'est-à-dire là, c'est la monnaie qui est dans les fonds monétaires internationaux, c'est pas le dollar, c'est pas, ils ont une monnaie spéciale. C'est-à-dire, la monnaie ce jour-là, c'est Al-Hassanat, où une maman vient supplier son fils, il lui manque une seule Hassanat pour qu'elle équilibre un peu sa balance. Il lui dit, mon fils, donne-moi une seule Hassanat. Il lui dit, maman, je ne peux pas. C'est une journée terrible. C'est pour ça qu'on dit, c'est Abdullah ibn Abbas. Il dit, c'est une journée terrible où c'est même l'enfant va supplier sa mère, son père, sa fille, de lui donner une hassana. Chacun, nefsi, nefsi. Donc tout le monde, ce jour-là, dira nefsi, nefsi. Ça veut dire nefsi, nefsi. Hein? Je sauve ma peau. Je sauve ma peau. Il n'y a que un qui dira ummati, ummati. C'est Nara Sallallahu Alaihi Wasallam. Seul. Ma communauté. La communauté. Ummatou, l'istijaba, ceux qui ont répondu à cela. Donc, les anges, ils ne savent pas ce qu'il y a dans les cœurs. Donc, seul Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il y a dans les cœurs. À partir de là, il nous est interdit donc, de fouiller dans les cœurs des gens ou bien de les juger. Donc, donc celui qui vient dans le hadith, j'ai pas terminé, Allah dira aux anges, cherchez s'il y a une hasana, il n'a pas de hasana. Il leur dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a une hasana, retirez-la, remontez-la. Il disait à Allah, il dit, il y a une feuille blanche, retirez-la et regardez ce qui est écrit dessus. Ils la prennent. Qu'est-ce qui est écrit dessus? C'est écrit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est-à-dire qu'il n'y a de Dieu que Allah subhanahu wa ta'ala et que Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et son prophète et son serviteur et son bien-aimé. Sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez des chaises ou non? Gagne une chaise ici. Donc, il leur dit de mettre, il leur dit de mettre sept, pour eux c'est une feuille, c'est écrit la ilaha illallah, donc c'est une feuille, c'est écrit la ilaha illallah, c'est pas, donc ils la mettent dans la balance du côté des bonnes actions. Bon, pour les anges, bon, c'est une bonne action par rapport à des milliers de mauvaises actions qu'il a fait de l'autre côté, donc c'est quand même, ça ne pèserait rien du tout. Mais ils la mettent dans cette balance-là, elle va être tellement lourde que tous les autres mauvais péchés qu'il a fait, ils vont être éjectés. Donc elle va être tellement lourde, tellement elle a de poids, tellement elle a de valeur, qu'elle va éjecter toutes les autres, elle a plus de poids. C'est-à-dire que la bonne action et la mauvaise action, ce n'est pas une question de comptabilité, de comptage. C'est-à-dire chaque action, elle peut être fatale. C'est-à-dire elle peut avoir une grande valeur, comme aussi une mauvaise action que nous on sous-estime, elle peut aussi être fatale et avoir une grande, c'est-à-dire elle peut être néfaste et destructive. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait comme dégâts cette mauvaise action et qu'est-ce qu'elle a ramené comme bien cette bonne action? C'est-à-dire une bonne action, idalika, quand on a dit le hadith tout à l'heure, c'est-à-dire que man faraja al mu'min kurbatan min kurabi ad-dunya faraja anhu Allah 'azza wa jalla kuraba yawm al-qiyamah, celui qui vient au secours du croyant dans cette vie d'ici-bas, il vous avez quelqu'un qui est dans la détresse, il est miskin, souffrant, il n'a personne à l'aider et tu viens pour l'aider. Et c'est pour cela que nous avons vu dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de quelqu'un qui était dans les communautés qui nous ont précédés, qui va rentrer au paradis juste parce qu'il a donné à boire, il a enlevé sa chaussure, il est descendu dans le puits parce qu'il y avait un chien qui avait tellement soif dans le désert et que ce personnage est descendu dans le puits, il a utilisé ses chaussures pour donner à boire au chien, et cette personne juste il l'a sauvé. Ils sont où les défenseurs des animaux quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend qu'on peut rentrer au paradis que seulement en donnant à boire à un chien? Donc ils sont très mal placés de nous donner des cours, de leçons sur la position des musulmans, comment nous devons nous comporter. Et c'est le chien, c'est pas le... Hein, vous savez que le chien, est, c'est-à-dire on ne doit pas le garder à la maison, etc. Et aussi, une femme est rentrée en enfer parce qu'elle a attaché un petit chat, ce chat-là, elle l'a attaché, elle ne lui a pas donné à manger et elle ne l'a pas laissé libre pour aller chasser donc jusqu'à ce qu'il est mort. Donc une femme est rentrée en enfer à cause de cet acte. Qui est quand même injuste vis-à-vis d'un animal. Alors que dire de celui qui va exterminer, c'est-à-dire des gens, ou va tuer des gens, ou bien faire du mal aux gens. Donc il faut faire très attention aux comportements qui font des dégâts, que ce soit par la parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte dans un hadith musulman. C'est-à-dire que l'homme peut dire une chose, il ne lui donne pas d'importance à une chose, juste pour faire rire. On est dans un groupe, on dit une chose pour faire rire le groupe, sur une personne, d'accord, et ça la blesse, et ça blesse cette personne-là, ça lui fait beaucoup de mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites très attention à cela, au mal que vous pouvez apporter aux gens dans vos actions, dans vos paroles, parce que une mauvaise action, elle peut vous faire balancer en enfer 70 ans, c'est-à-dire, c'est-à-dire tellement l'enfer, c'est-à-dire plus on descend vers le bas, plus c'est pire. Donc elle peut, c'est-à-dire le péché, un seul péché peut basculer. Comme aussi une bonne action, elle peut sauver l'homme, c'est-à-dire il faut chercher surtout quand les gens ont besoin de nous, quand on peut apporter quelque chose, il faut être au secours de l'être humain, que ce soit un musulman ou non. Alors, on a dit que les anges écrivent donc les bonnes et les mauvaises actions, et qu'ils n'écrivent que ce que eux ils constatent, donc ils n'écrivent pas... Il n'écrit pas ce qu'il y a dans le cœur de l'être humain, et il n'écrit pas aussi c'est-à-dire le fond de la bonne ou de la mauvaise action. Donc on a dit qu'il peut y avoir une mauvaise action, un péché, mais c'est un péché regrettable pour la personne et qui se repentit après avoir commis ce péché-là. Et on a rapporté la parole du Sénat, la seconde d'Ali, quand il dit « Ma'asiyatun awrathaka dhullin wa tkisaran khayrun laka min ta'atin awrathaka izzan wa istikbaran » C'est-à-dire, il a fait un péché, mais miskin, qu'est-ce qu'on sait de lui? Il a fait un péché, qu'est-ce qu'on sait de lui? Tu étais avec lui quand il s'est repenti, qu'est-ce qu'on sait de son rapport intérieur avec son Seigneur? C'est ça la rahma de l'islam. Nous, on n'est pas comme, avec tout le respect qu'on doit aux chrétiens, il n'y a pas de clergé, on n'a pas de compte à rendre aux prêtres. Peut-être le prêtre, il fait des péchés pires que... Et on a vu les dégâts dans les différentes églises, hein, américaines, etc., la pédophilie, subhanallah, 500 personnes, 500 prêtres, machin, qu'il y a des gens qui sont... Ils ont des séquelles, ils gardent ça, c'est-à-dire pendant toute leur vie. Comment tu peux, toi, demander pardon? C'est un être humain comme toi. Tu n'as pas de compte à lui rendre. Le seul à qui tu rends des comptes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à lui seul et tu n'as même pas besoin de parler puisqu'il entend ce qu'on... Il est plus proche de nous de... la veine jugulaire. C'est-à-dire, il sait ce que tu penses, il sait ce que tu dis. Tu peux lui parler, Allah azza wa jalla, dans ton cœur, sans que tu te peux te repentir, juste avec le cœur, sans que tu prononces le repentir. C'est-à-dire, tout est dans l'intérieur de l'homme. Ala wa inna fil jasad mudra, idha saluhat saluhat al-jasad kulluhu, idha fasadat al-jasad kulluhu, ala wa hiya al-qalb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une chair dans le corps. Si elle est bonne, tout le corps devient bon et bien et valable. Et si elle est mauvaise, c'est tout le corps qui est mauvais. C'est-à-dire que si tu as un cœur qui est rempli de maladies, de jalousie, d'envie, de ceci, de cela, toutes les maladies, elles sont dans le cœur. Et extérieurement, tu es quelqu'un de très très bien chez les gens, bonjour, machallah, etc. Mais à l'intérieur, il déteste tout le monde, il ne peut pas gober celui-là, il ne supporte pas celui-là, il espère de ne pas le voir tous les jours. Donc, le musulman, il faudrait qu'il s'occupe du cœur, c'est très important. Et les chouyours ont parlé de deux genres de péchés. Il y a les péchés avec les membres, il y a les péchés du cœur. Ils ont parlé des péchés du cœur qui sont pires. Ils sont difficiles à enlever. Et j'ai tout le temps dit que l'imam Abu Hamid al-Ghazali nous rapporte dans son livre « Revivification des sciences religieuses ». Lisez ce livre-là, c'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre. « Ihya ul-Umdin, Revivification des sciences religieuses ». Il nous parle que l'être humain peut avoir jusqu'à 566 maladies. L'ego, l'orgueil, l'envie, la jalousie. 566 maladies, subhanallah. Il dit qu'il y a 566 maladies. Alors, pour ces 566 maladies, il faut 566 remèdes. Il parle de nefs, comment l'ego, comment l'être humain. Nefs al-amara, nefs al-lawama, nefs al-mulhama, nefs al-mutma'ina. L'ego passe par des étapes et chaque étape de l'ego, il lui faut un remède spécifique à lui. Il parle même des noms divins que nous devons rapporter pour chaque étape. Parce que les noms divins, le dhikr, c'est un remède, c'est un médicament. C'est le cher connaisseur de l'âme qui te dit, voilà, dans ton état où tu es mal, tu ne vas pas bien parce que tu commets ce genre de péché, voilà comment tu dois te repentir, voilà le remède, voilà le dhikr que tu dois faire. Salat à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, des fois c'est Ya Latif, des fois La ilaha illallah, des fois La hawla, des fois c'est pas le dhikr, tu dois faire des sadaqat, des fois c'est pas ça, tu vas faire des raka'at, des fois c'est pas ça, tu vas demander pardon aux gens avec qui tu as des problèmes, etc. etc. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors il y a des moments où les anges, ces anges-là dont on a parlé, les protecteurs ou les anges, les scripts, donc, ils doivent nous quitter. Et il y a des moments où ils ne peuvent pas être avec nous. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas avec nous qu'ils ne peuvent pas écrire ce que nous sommes en train de faire. Ils sont juste à côté. Alors, au moment où on rentre aux toilettes, hein, pour faire ses besoins, ils ne rentrent pas aux toilettes, les anges. Quand quelqu'un est nu, fait sa douche, il est nu. Donc, parce que c'est pour ça, quand on est seul, il faut avoir un respect, un comportement vis-à-vis... C'est pas parce que je suis seul, allez hop, je deviens fou. Non, il faut toujours garder, c'est-à-dire son bon comportement, parce qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a un sahabi qui s'appelle Sayyidina Uthman ibn Affan, c'était le troisième calife, que les anges, ils ont utilisé le mot honte de lui, c'est-à-dire ils ont un grand respect, c'est-à-dire ils ont comment dirais-je, hein? Hein? pudiques, voilà, ils sont pudiques vis-à-vis de lui. Les anges, ils sont pudiques vis-à-vis d'un sahabi. Pourquoi? Parce que tellement lui, il garde sa pudeur quand il est seul avec Allah subhanahu wa ta'ala dans son comportement. Même si tu es seul, n'oublie pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec toi, qu'il y a des anges à respecter aussi. Quand on rentre à la maison, même s'il n'y a personne, on dit assalamu alaykum, on rentre avec la ilaha illallah. D'accord? Et que ces gens-là, il ne faut pas le faire du mal avec les mauvaises odeurs, avec ceci, cela. Il faut toujours se parfumer, être propre, avoir le wudu, etc. Donc, quand on rentre aux toilettes, aussi, quand une femme et un homme ils sont en rapport, quand ils sont en rapport, aussi, les anges, ils ne sont pas là. Et, comme j'ai dit, quand on fait les grandes ablutions. Bien sûr, pour les maisons où il y a des chiens, bien sûr, l'ange, les anges, ces anges-là, par contre, ces anges-là, ils rentrent, on parle. Les anges de la Rahma, hein, les autres catégories dont on a parlé la dernière fois, c'est eux qui ne rentrent pas dans une maison où il y a un chien. Mais, comme dit l'imam Ibn Abiz al-Qayrawani, dont le surnom est Malik Sarir, c'est-à-dire le petit Malik, c'est-à-dire tellement était un grand savant dans l'école malikite, ils lui ont dit, parce qu'il avait un chien, il lui dit, toi tu es un grand savant malikite, mais tu as un chien. Et l'imam Malik, il dit, c'est-à-dire il est déconseillé d'avoir un chien chez soi, parce que les anges ne rentrent pas. Il a dit, vous savez, c'est l'imam Malik, il était de nos jours. C'est pas qu'il va prendre un chien, il va prendre un lion. Il va mettre un lion à côté de lui. Tellement il y a de voleurs, tellement il y a de... Il a dit, si j'ai pris un chien, c'est pour des causes. C'est-à-dire, il a un chien, mais il faudrait qu'il l'éduque, qu'il y a des endroits où il ne va pas, des endroits où il y a la prière, l'endroit où on mange, etc. etc. Ça, là, là, bon, on va prendre une pause de 10 minutes, vite fait, et on revient, Inch'Allah.
Ah oui, bien. Ah, c'est bon.